France Musique. France Musique, musicienne de légende, Marina Chiche.
Et bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous de l'été autour des musiciennes de légende. Dans les épisodes précédents, nous nous sommes intéressés au violoncelle et à la conquête progressive de l'instrument par des femmes courageuses, des aventurières, de Lise Cristiani à Guillermina Sugia, de Beatrice Harrison aux nouvelles reines du violoncelle nées au début du XXe siècle comme Zara Nelsova. Voilà, la voie est tracée pour qu'une nouvelle génération apparaisse et brille de mille feux. L'année 1945, précisément, va être une année exceptionnelle qui va voir la naissance de trois violoncellistes plus prodigieuses les unes que les autres. Commençons tout de suite par l'américaine Christine Walewska.
Thank you.
Sur France Musique, la grande violoncelliste américaine Christine Walewska dans l'Allegro Appassionato de Camille Saint-Saëns avec l'Orchestre National de l'Opéra de Monte-Carlo, dirigé par Eliao Inbal en 1974. Christine a alors 29 ans. Avec sa technique brillante et un magnifique tempérament, elle est dotée d'un grand charisme sur scène. C'est une grande dame du violoncelle. Née en 1945 à Los Angeles, elle commence le violon, mais très vite, l'insistance de sa mère quand elle travaille l'énerve. Alors un jour, elle prend toutes les partitions de violon que sa mère lui a données et les déchire. Voilà, c'en est fini du violon. Mais à 8 ans et demi, son père, luthier, lui rapporte un petit violoncelle de Bernardel, un huitième daté de 1832, sur l'étiquette duquel est écrit « Fait pour la petite comtesse Marie ». La petite fille tombe sous le charme et c'est le début d'une histoire d'amour avec le violoncelle. Elle travaille sans cesse, au point que ses parents doivent lui rappeler d'aller s'amuser de temps en temps. Manifestement, elle préfère jouer au violoncelle qu'à la marelle. À cette époque, elle fait la rencontre d'Ennio Bolognini, un des plus grands violoncellistes du XXe siècle. Elle prend des cours avec lui de temps en temps. Bolognini est une personnalité hors norme, compositeur, chef d'orchestre, boxeur professionnel et aviateur. Écoutons-le maintenant dans un document exceptionnel, un enregistrement de sa sérénade de l'écho par lui-même. Sur France Musique, nous écoutions la sérénade de l'écho du violoncelliste-compositeur argentin Ennio Bolognini par Bolognini lui-même, ce grand violoncelliste avec lequel Christine Walewska étudia dans l'enfance. Bolognini était un personnage absolument exceptionnel et incontrôlable. Il se retrouvait souvent dans des bagarres de rue. D'ailleurs, quand il vint aux États-Unis pour la première fois dans les années 20, c'était comme partenaire d'entraînement du boxeur Luis Firpo, The Wild Bull of the Pampas, le taureau sauvage des Pampas. Quelques années plus tard, Bolognini intégra l'Orchestre symphonique de Chicago comme violoncelle solo, où il se fit remarquer en amenant son chien en répétition. Pendant cette période, il se forma comme aviateur. Et lorsqu'il fut viré de l'orchestre de Chicago, qui sait pour quelle raison, on raconte que Bolognini fut tellement énervé qu'il décida de se venger. Il prit son avion et vola à Razmotte, au-dessus de la salle du festival de Ravinia, pour perturber le concert au maximum pendant que son ancien orchestre y jouait. Un sacré personnage. La petite Christine Walewska adore Bolognini et avance à pas de géant avec le violoncelle. À 13 ans, elle remporte haut la main un concours devant des concurrents bien plus âgés qu'elle et joue le concerto de Saint-Saëns avec le National Symphony, un concerto qui restera cher à son cœur et qu'elle enregistrera dans les années 70 en retrouvant, selon ses dires, la fraîcheur de ses débuts. Sur France Musique, nous écoutions Christine Walewska dans le premier concerto de Saint-Saëns, à nouveau avec l'Orchestre National de l'Opéra de Monte-Carlo, dirigé par Elia Winball. Un jeu intense d'une grande solidité. C'est une technique acquise auprès de Grzegorz Piatigorski avec lequel Christine Walewska travaille ensuite. Piatigorski lui fit jouer pendant une année entière la première page du concerto de Romberg, souvent perçu comme un concerto d'études, écrit à l'époque de Beethoven. Piatigorski considérait que tout ce qui était nécessaire pour le répertoire de violoncelle se trouvait dans cette première page. Il lui disait de la jouer comme Mozart, puis comme Bach, comme Brahms ou comme Beethoven. Un excellent exercice de style. Christine Walewska travailla aussi des gammes et des études de manière intensive lors de son passage au Conservatoire de Paris dans la classe de Maurice Maréchal. Elle a alors 16 ans. C'est une période difficile où elle se fait tourmenter par un étudiant jaloux plus âgé qu'elle qui lui fait des coups pendables. Par exemple, il jette des centimes dans les trous de son violoncelle quand Maréchal a le dos tourné. Mais Christine tient bon et remporte son premier prix. Elle fait ses débuts en Allemagne et sa carrière est lancée à 18 ans. À partir de là, elle joue sur toutes les scènes du monde et dans les années 70, elle enregistre absolument tout le répertoire. Pas moins de 17 concertos pour le label Philips, dont les grands concertos de Schumann, Dvorak, Lalo, mais aussi le concerto de Khachaturian.
Thank you.
Sur France Musique, un extrait du premier mouvement du concerto d'Aram Khachaturian par la grande violoncelliste Christine Walewska, ici avec l'Orchestre National de Monte Carlo, dirigé par Eliaou Inbal. C'est un enregistrement de 1972. Après un deuxième mariage, Christine Walewska s'installe à Buenos Aires, où elle fonde une famille et lève le pied par rapport à sa carrière. Comme elle le dit, elle peut enfin s'amuser à faire des choses qu'elle n'avait jamais eu le temps de faire parce qu'elle voyageait tout le temps, ce qui incluait trimballer le violoncelle dans un bras et ses robes de concert dans un autre. Christine Walewska a actuellement 76 ans et vit aux États-Unis. Un beau parcours pour une femme qui a réussi à construire une vie après des débuts de prodige. En effet, comme le disait Yasha Heifetz, être un prodige est une maladie à laquelle il peut être difficile de survivre.
France Musique, musicienne de légende, Marina Chiche.
À la différence de Christine Walewska, notre deuxième violoncelliste du jour, aussi née en 1945, fut elle victime de ses débuts de prodige. L'Allemande Anya Tauer passe par le Conservatoire de Paris en 1960 à l'âge de 15 ans et à peine son prix en poche, elle se retrouve lancée dans une carrière internationale. Anya est très jolie, elle ressemble à Romy Schneider. Et elle évolue sous l'emprise d'une mère très stricte et dominatrice. Elle ne s'en échappera jamais jusqu'à son suicide pour un chagrin d'amour en 1973. Elle a seulement 28 ans. Il reste quelques enregistrements d'Anya Tauer, par exemple, cette suite de Jean Français avec le compositeur lui-même au piano. Prélude et écossaise de la suite pour violoncelle et piano de Jean Fancé avec Anya Tower et le compositeur lui-même au piano. La violoncelliste allemande Anya Tower, qui eut une destinée tragique d'enfant prodige sous l'emprise de sa mère dominatrice, est aussi sacrifiée par un marché de la musique sans pitié. Le label de disques Deutsche Grammophon avait signé un contrat avec elle, mais l'avait mise aussitôt à l'écart au profit du grand violoncelliste russe Mstislav Rostropovitch, qui avait rejoint le label en 1968 et avait été lancé avec le concerto de Dvorak, précisément le même morceau que Tower venait d'enregistrer et de sortir. Anya Tower fut un produit utilisé puis jeté. Il faut dire aussi qu'à la même époque, une autre jeune femme violoncelliste fait sensation. Née en janvier 1945 à Oxford, Jacqueline Dupré commence à prendre des leçons de violoncelle auprès de sa maman, Iris, qui est pianiste. À seulement 10 ans, elle gagne une bourse de la Fondation Suja, grâce à laquelle elle peut étudier avec le violoncelliste William Pleath. On la retire de l'école pour qu'elle puisse se consacrer au violoncelle. Jackie fait du violoncelle nuit et jour. Sa carrière débute en 1961 au Wigmore Hall de Londres. Elle a seulement 16 ans. Jeune femme réservée, pour ne pas dire timide, dans sa jeunesse, elle devient une toute autre personne derrière son violoncelle, d'une expressivité folle, généreuse, extravertie, et elle a des facilités techniques sidérantes. Elle passe 6 mois à Paris chez Tortelier, va en Suisse jouer pour Pablo Casals. Elle ira même passer un peu moins d'une année en Russie, dans la classe de Rostropovitch à Moscou. Influence intéressante de ses personnalités du violoncelle, mais Jacqueline est unique, un cheval indomptable avec un instinct incomparable. C'est son enregistrement du concerto d'Elgar avec l'Orchestre symphonique de Londres en 1965 qui lui fait atteindre une reconnaissance internationale. L'histoire de cet enregistrement est belle aussi parce que le chef d'orchestre, John Barbirolli, lui-même violoncelliste, était intimement lié au concerto. Il avait joué à la création de l'œuvre, d'abord dans l'orchestre, comme musicien au sein de l'Orchestre symphonique de Londres, puis comme soliste. Un extrait du Concerto d'Elgar avec Jacqueline Dupré, l'Orchestre symphonique de Londres dirigé par John Barbirolli. Jacqueline Dupré a alors 20 ans. Avec cet enregistrement, elle devient une star, une sensation dans le monde musical qui est à ses pieds, subjuguée par cette personnalité musicale si instinctive, son talent instrumental et sa puissance émotionnelle. Force de la nature, la jeune femme aux longs cheveux blonds a un charisme incroyable. Elle joue avec tout son corps et déploie un large sourire qui ne la quitte jamais et qui lui vaut le surnom de Smiley. Jacqueline enregistrera à nouveau le concerto d'Elgar quelques années plus tard, cette fois sous la direction de Daniel Barenboim, qu'elle rencontre à Londres à Noël 1966. Les deux musiciens tombent follement amoureux et se marient un an plus tard. C'est un golden couple, un couple en or, qui mène alors une vie de jet-set musical. Par l'intermédiaire de Barenboim, elle rencontre des musiciens comme Pinchas Zukerman, Itzhak Perlman ou Zubin Mehta, la mafia musicale juive, comme ils se nomment. Il existe d'ailleurs un merveilleux documentaire de Christopher Nupen autour du quintet de Schubert, La Truite, avec ses musiciens qui s'amusent et font les pitres en coulisses. C'est une époque incroyable. Jacqueline et Daniel sillonnent le monde, jouent ensemble, lui au piano ou à la baguette. Par exemple, en mai 1968, ils enregistrent le concerto de Schumann, une version exceptionnelle.
Thank you. Thank you. Thank you.
Sur France Musique, le concerto de Schumann pour violoncelle et orchestre avec Jacqueline Dupré, le New Philharmonia Orchestra dirigé par Daniel Barenboim en 1968. 3 ans plus tard, Jacqueline Dupré a 26 ans, on est en 1971. Elle ressent depuis quelque temps une gêne de plus en plus handicapante au bout des doigts, une perte de sensibilité et de mobilité qu'elle ne s'explique pas. Le diagnostic est enfin posé, elle est atteinte de sclérose en plaques. À partir de là, c'est un déclin irréversible. Elle doit alors arrêter de jouer. À 28 ans, sa carrière est définitivement terminée. Elle décédera des suites de cette maladie en 1987, à l'âge de 42 ans. Une fin tragique pour un des talents les plus exceptionnels du violoncelle.
Thank you.
Sublime Jacqueline Dupré, étoile filante du violoncelle, dans l'élégie de Forêt, accompagnée par Gerald Moore. En 1966, Jacqueline Dupré fit un passage à Moscou dans la classe de Rostropovitch, où elle croisa le chemin de grandes violoncellistes soviétiques. Dans le prochain numéro, nous irons donc à Moscou. Merci à toute l'équipe, Françoise Cordet, Florian Henault et Philippe Mercher. Cet épisode ainsi que les épisodes précédents sont disponibles en replay sur le site de France Musique et en podcast sur l'appli Radio France. On se dit à dimanche prochain, 16h.
À réécouter sur francemusique.fr.